Donc, Monseigneur, mes chers amis, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder cet après-midi est les pères de l'Église, source de renouveau dans l'orthodoxie contemporaine. Les pères de l'Église, source de renouveau. Cette question peut s'envisager de deux manières différentes. Selon qu'on se place dans la perspective, je dirais, occidentale, plutôt la perspective catholique, et puis la perspective orthodoxe. Mais nous vivons en Occident, et assez souvent, ce problème, ce rapport avec les pères de l'Église, est envisagé dans des catégories de pensée qui sont en fait plutôt celles de l'Occident et de l'Église catholique. Je m'explique. Dans l'Église catholique, n'est-ce pas, il y a eu, dans la vie de l'Église et dans la vie intellectuelle de l'Église, je n'ose pas dire une rupture, mais tout de même une évolution considérable au cours du XIIe siècle et surtout du XIIIe. En ce sens que, jusqu'au XIIe siècle, la pensée occidentale, la pensée religieuse occidentale, reste extrêmement proche dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de penser, de vivre le christianisme, de toute la tradition à la fois orientale et occidentale, donc très proche des pères de l'Église. Mais au XIIIe siècle, donc, est apparu, déjà même en partie au XIIe siècle, dans les écoles épiscopales, les monastères, eux, restant davantage attachés à la tradition patristique, mais à ce moment-là, XIIe et XIIIe siècle, apparaît une nouvelle forme d'intellectualité, qu'on a appelée la théologie scolastique. Et cette théologie scolastique se caractérise par l'utilisation en théologie de la philosophie grecque, spécialement celle d'Aristote. Aristote venait d'être redécouvert en Occident par l'intermédiaire des Arabes, d'ailleurs. Et surtout au XIIIe siècle, on a élaboré toute une théologie, bien sûr fondée sur la tradition, fondée sur l'Écriture sainte, mais aussi sur l'enseignement des saints-pères, mais où on élaborait le dogme chrétien au moyen des procédés philosophiques et des catégories philosophiques de l'aristotélisme, principalement l'aristotélisme. Le platonisme avait aussi son importance. Et on a voulu donc faire de la théologie une science au sens aristotélicien du mot. Une science où on procède par des concepts rigoureux, des concepts empruntés à la philosophie, mais épurés pour les appliquer à Dieu, mais en leur laissant leur sens précis. On a raisonné avec les méthodes de la logique aristotélicienne, et ceci a donc créé un nouveau type de théologie, très différent finalement de celui des pères. Et ceci a amené alors une certaine rupture en Occident, entre les milieux théologiques, qui étaient des milieux scolaires, des milieux universitaires, et la vie spirituelle. Il y a toujours eu en Occident de grands spirituels, mais à partir de cette époque, il y a une sorte de divorce entre la théologie, la recherche théologique et la spiritualité. Il faut dire que les auteurs spirituels occidentaux, souvent, sont restés d'ailleurs plus proches de la tradition ancienne, de la tradition des pères, que les théologiens, parce que justement la scolastique apparaissait comme un peu desséchante sur le plan spirituel, et la spiritualité s'est développée donc, non pas dans une rupture avec la théologie, mais tout de même en prenant ses distances à l'égard de la théologie d'école. Si bien qu'en Occident, il y a eu périodiquement des renouveaux spirituels et des renouveaux aussi de la pensée, mais souvent ces renouveaux se faisaient plutôt en cherchant comment adapter la recherche théologique aux besoins de l'époque. Par exemple, au XVIIe siècle, n'est-ce pas, on a assez largement abandonné la scolastique d'inspiration aristotélicienne, mais pour s'inspirer de la philosophie du temps qui était cartésienne. Mais dans l'Église catholique, alors, à notre époque, enfin, disons, autour des années 50, même un peu avant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certains catholiques, certains religieux catholiques en particulier, ont pensé que, justement, pour revitaliser à la fois la pensée théologique et la vie spirituelle, il fallait revenir aux pères de l'Église des premiers siècles. C'est ce qui a donné naissance, en France, à la collection Sources chrétiennes, qui a publié maintenant environ 450 volumes, c'est une œuvre admirable, qui a été entreprise par quelques jésuites, notamment le père de Lubac, qui est devenu cardinal ensuite, le père Daniel Lou, également, qui a été nommé cardinal après le Concile Vatican II, et le père Mondésert. Ce sont des hommes qui avaient profondément le sens de la patristique, de la théologie patristique, et qui ont lancé cette collection et un certain nombre de recherches annexes dans le but de revivifier l'Église catholique, de revivifier la pensée catholique et la vie spirituelle de l'Église catholique à partir des pères. Et cette tâche a été relayée, alors, sur un plan plus humble, par un franciscain, le père Amann, qui a lancé la collection Les Pères dans la foi, qui a publié moins de volumes que Sources chrétiennes, et qui maintenant est une collection assez importante quand même, qui n'a pas la qualité scientifique de Sources chrétiennes, sa rigueur dans les traductions, mais qui est tout de même très utile. Mais donc le but était, voyez-vous, de créer un retour aux pères, et on entendait par là vraiment les pères des premiers siècles, pour revivifier une église où la pensée et la vie spirituelle avaient subi pas mal de vicissitudes du fait de l'apparition de la scolastique au XIIIe siècle et de cette rupture, au fond, depuis cette époque, entre scolastique, théologie d'école et vie spirituelle. Et ces hommes, père de Dubail, père Daniel Lou, étaient de grands spirituels en même temps que des hommes d'une compétence remarquable sur le plan scientifique. Si nous envisageons la question d'un point de vue orthodoxe, nous devrons la poser et la résoudre un peu différemment. Car, en effet, dans l'orthodoxie, on n'a pas connu cette rupture de la scolastique. D'une certaine façon, on peut dire que l'orthodoxie a été beaucoup plus unifiée, n'est-ce pas, dans sa manière de penser. On n'a pas connu non plus la rupture entre théologie et vie spirituelle. Sauf peut-être à certaines époques où, des époques qui ont été au fond un peu des époques de crise, et où la pensée orthodoxe a été trop influencée par la pensée occidentale. Par exemple, fin XVIIe, XVIIIe siècle, en Russie, la pensée théologique a subi une très forte influence de la scolastique occidentale. Mais nous pouvons considérer cela tout de même comme une déviance temporaire. Et dès le XIXe siècle, il y a eu des travaux très intéressants faits en Russie pour replacer la théologie dans le sillage des pères. Mais, donc, du point de vue, alors que du point de vue catholique, n'est-ce pas, la patristique, les pères de l'Église, se situent vraiment dans l'Antiquité. Ce qu'on appelle les pères de l'Église sont les auteurs ecclésiastiques anciens, pour la plupart des saints, des évêques. Et la période patristique, pour l'Église catholique, s'arrête, là, il n'y a pas un accord parfait entre les historiens, soit avec saint Jean Damascène, soit plus tard, et en Occident, également, certains arrêtent l'époque patristique avec le pape Saint-Grégoire le Grand au VIe siècle, d'autres disent que Saint-Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, est le dernier des pères de l'Église. Il y a de bons arguments, et pour cela, on ne peut pas fixer des dates précises dans ce domaine. Mais donc, pour l'Église catholique, c'est certain que la période patristique s'arrête, disons, au plus tard au XIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'apparaît la théologie scolastique. Mais dans les orthodoxes, donc, nous n'avons pas connu ce type de rupture. Et on insiste souvent sur ce fait que les pères de l'Église ne sont pas limités à une époque déterminée. Certes, il y a eu un âge d'or des pères de l'Église, qui a été surtout le 4e siècle, le début du 5e, mais il pourrait y avoir, il y a aujourd'hui encore, des pères de l'Église. Cependant, entre ce point de vue que j'appelais catholique et le point de vue orthodoxe, il y a tout de même un moyen de rassembler un petit peu les choses en disant que pour l'orthodoxie, nous pouvons dire qu'il y a tout de même deux époques dans la pensée patristique. Il y a la grande époque patristique, et je crois qu'on peut dire qu'elle commence aussitôt après les écrits du Nouveau Testament, donc au tournant du 1er et du 2e siècle, et elle s'est poursuivie, disons, en gros, jusqu'à la conquête arabe de tout le Proche-Orient. Et ensuite, assez rapidement, l'avancée, d'abord arabe, puis turque, ensuite en Asie mineure. Donc on a là une période qui s'étend, en gros, jusqu'au 7e siècle. Disons, à l'époque, justement, de la conquête musulmane de toute une grande partie de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui, en fait, est l'Empire romain, n'est-ce pas? Le mot byzantin est une invention des historiens du XIXe siècle. Les byzantins sont jamais appelés autrement que des romains. C'était l'Empire romain christianisé et qui, d'ailleurs, à l'origine, s'étendait aussi bien sur toute la partie occidentale de l'Empire que la partie orientale. Mais justement, à cette époque-là, au cours du 6e, 7e siècle, on sent qu'il y a un certain ralentissement quand même, et dû en partie aux circonstances politiques, car avant la conquête arabe, il y a eu la conquête perse, les invasions perses qui ont ravagé Jérusalem, ravagé la Palestine, donc qui ont créé des conditions difficiles pour le développement de la pensée chrétienne. Mais juste à l'époque de la conquête arabe, on sent qu'il y a eu un besoin de récapituler tout ce qui s'est passé auparavant sur le plan de la pensée chrétienne. Ce qui nous a donné, sur le plan propre ontologique, l'œuvre de Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène était le fils d'un haut fonctionnaire byzantin, mais qui était passé au service des premiers califes musulmans de Damas. Et comme ça a été le cas pour beaucoup, n'est-ce pas, une transition qui s'est faite comme ça, et les hauts fonctionnaires byzantins ont été très souvent utilisés par les premiers califes et autres musulmans. Et donc on est vraiment à l'époque où l'islam commence à s'étendre dans toute cette partie de l'Empire romain, et Saint Jean Damascène, dans son œuvre, a ramassé vraiment toute la tradition antérieure, sur le plan proprement doctrinal, si je puis dire. Son œuvre est une sorte de grand commentaire du symbole de la foi à partir de l'enseignement de tous les pères qui ont précédé. Et à la même époque, Saint Jean Damascène lui était moine au monastère de Saint Sabas en Palestine. À la même époque, au Sinaï, où existait déjà depuis au moins le 6e siècle le monastère qui s'appelle aujourd'hui le monastère de Sainte-Catherine du Sinaï, au Sinaï, un higoumène du Sinaï, Jean le Sinaïte, a également fait une sorte de synthèse de toute la tradition antérieure, mais alors davantage sur le plan de la vie spirituelle, une vie spirituelle quand même très charpentée dogmatiquement, je dirais, et son œuvre s'appelle l'échelle sainte, l'échelle de Saint Jean Climac. Climac veut dire échelle, n'est-ce pas? Donc Saint Jean Climac, c'est Saint Jean de l'échelle. Saint Jean le Sinaïte est couramment appelé Saint Jean de l'échelle. Et lui aussi, donc au 7e siècle, a réuni un petit peu en gerbe toute la tradition antérieure. Et on peut dire donc que, pour les orthodoxes, comme j'ai dans un instant, la période, l'existence de pères de l'Église n'est pas arrêtée par les événements de cette époque, mais tout de même, on sent que se clôt une première période dans la pensée, dans la vie spirituelle chrétienne. Et les auteurs, les grands auteurs chrétiens de toute cette période, qui commence donc au seuil du IIe siècle et va se prolonger jusqu'au VIIe, représentent, on peut dire, les pères de l'Église, mais les pères fondateurs, véritablement, de la pensée chrétienne, n'est-ce pas, et de la spiritualité chrétienne. C'est une période fondatrice. Et donc ces pères-là vont avoir une importance primordiale, sans aucun doute. Mais, encore une fois, dans la tradition orthodoxe, il n'y a pas eu de rupture. Ensuite, il n'y a pas eu apparition d'une scolastique, et de... si bien que il n'y a aucune raison qu'on arrête à cette époque l'existence, l'apparition, l'efflorescence de pères de l'Église dans l'Église orthodoxe. Et de fait, il y en aura encore souvent après. Mais qui apparaissent plutôt, justement, comme, je dirais, le fruit d'un courant souterrain, parce que ce courant de la pensée patristique va se poursuivre tout de même à travers les conditions politiques beaucoup plus difficiles du monde orthodoxe. Et de temps en temps, on a alors une sorte de résurgence, n'est-ce pas, où apparaissent des pères de l'Église. Au XIe siècle, on aura, par exemple, Saint Siméon, le nouveau théologien, qui a été surtout un auteur spirituel, mais qui en même temps, de son œuvre, a une densité théologique importante, n'est-ce pas, d'autres auteurs moins importants. Et puis alors, au XIVe siècle, on a de nouveau un grand renouveau spirituel, mais théologique en même temps, qui va apparaître d'abord à partir du mont Athos, car entre-temps, le mont Athos va être devenu le principal centre du monachisme orthodoxe, étant donné que les autres centres monastiques anciens étaient à peu près tous passés sous la domination musulmane, et les moines se sont, une bonne partie du monachisme s'est regroupée au mont Athos. Et au XIVe siècle, alors, à l'occasion de certaines controverses théologiques, sont apparus de grands auteurs spirituels et qui étaient en même temps de véritables pères de l'Église et des théologiens, notamment Saint Grégoire Palamas, qui, je crois, est le plus grand sur le plan de la force de sa pensée et de l'ampleur de son enseignement. Mais autour de Saint Grégoire Palamas, il y a à cette époque-là toute une pléiade de pères de l'Église, dont les écrits ont constitué la plus grande partie ensuite de ce qu'on appelle maintenant les philokalies. Ce renouveau est ce qu'on appelle renouveau hésychaste, parce que son point de départ a été certaines controverses qui ont eu lieu au mont Athos sur la méthode de la prière et l'orientation hésychaste de la vie spirituelle. Le mot hésychia veut dire à la fois vie solitaire, vie monastique, mais à tendance semi-rémitique ou érémitique, et puis en même temps le calme, la paix intérieure à laquelle cette vie permet d'accéder. Et autour de cela, donc, c'est toute une problématique théologique qui a été évoquée, et nous avons là, donc, Saint Grégoire Palamas, Saint Grégoire le Sinaïte, et bien d'autres. Ensuite, il y a de nouveau une sorte, peut-être, mais toujours due à cause de circonstances politiques, en grande partie, soit un assoupissement de la pensée orthodoxe, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu encore de grands saints entre le 14e, 15e siècle et le 18e, mais la vie spirituelle a continué, mais dans des conditions difficiles. Conditions difficiles dues, pour le monde grec, justement à l'occupation turque, car les Ottomans, n'est-ce pas, petit à petit, ont grignoté l'Asie mineure, et finalement, au XVe siècle, Constantinople est tombée. Et l'ensemble de l'Empire byzantin, à ce moment-là, était donc sous domination musulmane. Ce qui crée des conditions, évidemment, très difficiles pour un développement intellectuel chrétien. Les Turcs avaient interdit en beaucoup d'endroits même le simple enseignement de la langue grecque. Ils ne voulaient plus y avoir d'école primaire grecque. Et les enfants grecs étaient obligés, s'ils voulaient avoir un minimum de formation, d'aller dans des écoles secrètes qui se tenaient dans des monastères, dans quelques paroisses, et ils allaient la nuit, n'est-ce pas, au clair de lune, dans ces écoles secrètes, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre l'arithmétique en grec, etc. Soit une formation assez élémentaire, mais il n'y avait plus de possibilité d'avoir des sauf dans quelques cas exceptionnels, d'avoir une formation, je dirais, de niveau supérieur. Mais tout de même, fin 18e siècle et début 19e siècle, un renouveau s'est dessiné, et de nouveau à partir du Moitos. Et de nouveaux pères de l'Église sont apparus, Saint Nicodème Légueride, Saint Macaire de Corinthe, là encore tout un groupe d'auteurs moins importants, mais qu'on peut considérer de vrais pères de l'Église. Et c'est dans ce milieu que la Philokalie, notamment, a été élaborée. La Philokalie, qui est un recueil de tous les textes patristiques, justement, qui peuvent nourrir la vie spirituelle. Et ces nouveaux pères de l'Église du 14e, du fin 18e, début 19e siècle, ont réuni tous les manuscrits qu'ils ont pu trouver, manuscrits des auteurs hésychastes du 14e siècle, mais aussi des textes bien antérieurs, remontant jusqu'au IVe siècle, au père du désert du IVe siècle, et c'est comme ça qu'ils ont élaboré la Philokalie. Ils ont publié aussi d'autres écrits, les chefs de Saint Jean Climaque, les écrits de Saint Isaac le Syrien, par exemple. Et là, on a vraiment l'exemple, voyez-vous, de ce qu'est un renouveau d'inspiration patristique dans l'Église orthodoxe. Ce n'est pas un retour au Père qu'on aurait abandonné pour adopter un autre type d'intellectualité chrétienne, mais un courant souterrain, un courant qui continue, mais qui pendant un temps ne peut pas avoir une grande efflorescence à cause des conditions principalement politiques, à ce moment-là, reparaît, provoqué par une controverse logique, pour une possibilité ouverte à un moment donné davantage de pouvoir s'exprimer, et l'extrême fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle a été une période de ce genre. Et ce mouvement philokalique, peut-on dire, n'est-ce pas, qui est parti du Moitos, a gagné aussi les pays roumains et slaves, parce que à cette époque-là se trouvait au Moitos un moine originaire de la région de Kiev, dans l'Ukraine actuelle, qui est devenu Saint Païssy Veliouchkovski. Et Saint Païssy Veliouchkovski a travaillé avec ces moines atonites, n'est-ce pas, chercher à revivre vraiment de toute la grande tradition spirituelle des pères, et il a transporté cela ensuite en Moldavie. Et à partir de là, il y a eu aussi tout un renouveau spirituel qui a gagné les pays slaves, et ce qui a... le Saint-Esprit en même temps, il ne faut pas voir ça en termes purement humains, d'une façon purement d'influence littéraire de tel ou tel auteur. C'est le Saint-Esprit qui suscite en même temps ce renouveau. Et donc le Saint-Esprit suscitait à ce moment-là en Russie un renouveau monastique, spirituel et intellectuel en même temps. Le XVIIIe siècle avait été pour la Russie une époque difficile avec les règnes de Pierre le Grand, de la Grande Catherine, qui n'est pas du tout favorable au monachisme. C'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup moins de Russes étaient réfugiés en Moldavie, où ils jouissaient auprès des princes roumains de beaucoup plus de liberté. Et au cours du XIXe siècle, ce mouvement donc philokalique, traduit à la fois en roumain, avec des écrits traduits en roumain et en slavon et ensuite en russe par les disciples de Saint Païssy Veliouchkovski, va gagner la Russie et le terre slave. Donc Saint Séraphin de Sarov se rattache à ce mouvement, mais aussi tous les saints starcis d'Optino, c'est-à-dire d'Optino, qui a connu jusqu'à la révolution russe de 1917 toute une lignée de pères spirituels et d'auteurs spirituels qui s'inscrivent tout à fait dans l'esprit patristique, qui sont aussi des pères de l'Église de notre temps, n'est-ce pas? Ils ont été canonisés, d'ailleurs, relativement récemment par l'Église russe. Et en Grèce, le mouvement qui a été donc initié par Saint Nicodème d'Hyrite et Saint Macaire de Corinthe s'est poursuivi aussi pendant une bonne partie du 19e siècle et même un peu du 20e. Mais tout cela, évidemment, s'est un petit peu endormi, si je puis dire, mais là, ce courant, quand même, restait toujours souterrain, toujours sous-absent. Et nous arrivons ainsi à vraiment l'époque contemporaine. C'est une époque où, partons du début du XXe siècle, le monde grec était encore, au début du XXe siècle, sous la domination ottomane, donc il n'y avait pas à ce moment-là de grandes possibilités de développer la pensée chrétienne, soit sur le plan proventologique, soit sur le plan spirituel. Mais avec l'indépendance de la Grèce, les circonstances ont changé, mais n'ont pas été pour autant des circonstances très, très heureuses pour la pensée chrétienne, orthodoxe, parce que justement l'établissement d'un État grec indépendant ne s'est pas fait sans problème, il y a eu une forte influence occidentale. Donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans le monde grec, il n'y a pas eu de forte résurgence de ce courant patristique qui est toujours couvé sous la cendre. Puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, pour la Grèce ensuite la guerre civile, mais tout de même, à cette époque, alors, disons en gros la deuxième moitié du XXe siècle, le Saint-Esprit a suscité, notamment au Moatos, des pères spirituels, des moines tout à fait remarquables. Il y a toute une pléiade, ça c'est vraiment remarquable, l'efflorescence alors de grands spirituels, il y en avait déjà avant, mais de façon plus sporadique. Donc là, il y a vraiment eu une renaissance véritable de pères spirituels au Moatos qui ont été en même temps, on peut dire, des pères de l'Église. Ça donc est d'abord plutôt sur le plan monastique, parce que en Grèce même, l'enseignement de la théologie avait été influencé par la scolastique occidentale et la théologie académique grecque n'était pas très vivante ni très nourrie de cette patristique. Mais il s'est trouvé qu'à partir de la fin des années 60, ces pères spirituels de Latos ont eu de jeunes disciples qui sont venus. Et à ce moment-là, c'est tout un renouveau spirituel assez extraordinaire, un renouveau monastique qui s'est développé au Moatos. Le Moatos semblait agonisant, parce qu'il n'y avait plus, à cause des difficultés de recrutement dues à la Deuxième Guerre mondiale, dues à la guerre civile ensuite, il n'y avait plus que des vieillards. Et en quelques années, il y a eu une influence de jeunes qui fait que le Moatos a vraiment repris vie d'une façon spectaculaire, peut-on dire. Et cela a coïncidé avec cette présence de pères spirituels de très grande envergure, le père Joseph Lésicaste, notamment, qui est à l'origine de tout ce mouvement, qui a eu des disciples tout aussi remarquables, par exemple le père Ephrem de... le nom de son monastère m'échappe à l'instant, Philothéou, père Ephrem de Philothéou, le père Joseph, qui maintenant est encore... la plupart de ses disciples de Lésica sont encore vivants aujourd'hui. Père Joseph est un père spirituel de Vatopédie. Le père Hieralambos était devenu igoumène du monastère de Dionysio. Et sous l'influence des disciples de Lésica, alors, tous ces monastères de Latos, où il n'y avait plus que quelques vieillards, ont repris vie. Et maintenant, ce sont même tous les ermitages de Latos qui reçoivent des jeunes, n'est-ce pas, qui se développent. Mais ceci n'a pas été sans conséquence sur la Grèce, sur la population chrétienne de Grèce. Car beaucoup de prêtres grecs, beaucoup de théologiens grecs eux-mêmes, je pense à quelqu'un comme Jean Manzaridis à Thessalonique, ou d'autres professeurs d'université grecque, ont pris comme père spirituel de ces moines de Latos, appartenant à ce mouvement, et alors que la foi chrétienne avait été sauvegardée en Grèce, justement, durant ces époques difficiles, et au moment où la Grèce passait d'une civilisation presque entièrement rurale à une civilisation davantage urbaine, là, il y avait eu un mouvement spirituel déjà qui s'est dessiné, mais plus d'inspiration occidentale que d'inspiration patristique. C'est ce qu'on appelait le mouvement Zoï. Il y a eu deux mouvements, Zoï et Sotir. D'ailleurs, l'un est une scission de l'autre, n'est-ce pas? Et les membres de Zoï et de Sotir ont fait beaucoup pour maintenir la foi vivante dans la société grecque, la société urbaine grecque, et le passage s'est passé ainsi, sans perte de la foi, d'une population rurale à une population plus urbanisée. Mais, à l'époque, ils s'inspiraient davantage de ce qu'ils faisaient en Occident, dans le milieu catholique ou protestant. Eux étaient orthodoxes et très fidèles à l'orthodoxie, mais leur méthode, leur mode de pensée était assez influencé par l'Occident. Et depuis qu'il y a ce renouveau alors, qui donc a débuté à la fin des années 60 et surtout dans le cours des années 70, alors là, justement, toute cette foi qui était restée très vivante dans le peuple grec, c'est davantage, a été davantage colorée par cette tradition patristique que gardait le Moïtos et que gardaient ses pères spirituels du Moïtos. En même temps, il y a eu quelques très bons connaisseurs de la patristique dans l'université grecque, et on peut dire que la Grèce connaît, depuis les années 70, un renouveau à la fois théologique et spirituel, et un renouveau de la foi dans l'ensemble, dans le peuple grec, tout à fait remarquable. Ça vaut aussi pour Chypre d'ailleurs, n'est-ce pas? Je suis allé pour la première fois en Grèce en 1960. À l'époque, dans les librairies, vous ne trouviez pratiquement aucun texte patristique. Aucune édition grecque des Pères de l'Église. Il y avait quelques ouvrages de piété dans les librairies religieuses. C'était dans le style des ouvrages piétistes allemands ou anglais, n'est-ce pas? L'iconographie s'inspirait beaucoup de l'art de la Renaissance italienne. On sentait qu'il y avait une sorte d'aliénation de l'orthodoxie à ce niveau-là. Si vous allez aujourd'hui dans les librairies en Grèce, vous serez stupéfait de voir le nombre de publications et d'éditions des pères. On sent que là, il y a une redécouverte véritablement de toute la patristique, mais encore une fois, ce n'est pas à partir d'une extinction de ce courant, mais il était devenu plutôt souterrain à cause des difficultés principalement politiques. Il faut dire par exemple que l'expulsion en 1922 de plus de 2 millions de Grecs de Turquie, n'est-ce pas, d'Asie mineure, où ils étaient depuis toujours, a été vraiment une difficulté considérable, parce que d'abord le Moïtos se recrutait principalement dans ces communautés d'Asie mineure, et d'autre part il a fallu en Grèce arriver à assimiler 2 millions de réfugiés qui arrivaient. Donc tout ça avait beaucoup perturbé la vie courante dans tout, et ça ne permettait plus un développement de la pensée chrétienne. Donc c'est à partir de 70 que tout a vraiment est sorti, on peut dire, de cet état d'être un peu sous la cendre, n'est-ce pas, qui précédait. Mais encore une fois, l'étincelle était présente sous la cendre. Et par exemple, les gens qui, à l'époque, on a célébré le millénaire du Moïtos, disaient que le Moïtos n'est plus que pour 10 ans, et qu'au bout de 10 ans, les monastères seraient vides et vous les changerez en hôtel de luxe, n'est-ce pas, ou en musée byzantin. Ben, évidemment, la prophétie ne s'est pas réalisée. Mais à l'époque, c'était encore très... ça paraissait évident. Et on sent là une action du Saint-Esprit qui a suscité des hommes tout à fait remarquables. Ça. Et alors, à côté de ceux que je citais, ces disciples du Père Josésicas, il y a eu le Père Païsios, qui est mort il y a quelques années aussi, mais qui a eu comme disciple le Père Basile, d'abord igoumène de Savonikita et ensuite d'Ivirone. Il a démissionné il y a peu de temps. Il est venu en France plusieurs fois, il a fait des études à Strasbourg, et qui lui aussi est un homme tout à fait remarquable. Le père Emilianos de Simonos Petra, dont on publie des écrits maintenant. C'est vraiment extraordinaire cette efflorescence qu'il y a eu là de pères spirituels et nourris de toute la tradition patristique et qu'on peut considérer comme des pères de l'Église de notre temps. Un certain nombre seront certainement canonisés dans les années à venir. En Russie, évidemment, les choses ont été plus lentes parce que sous le régime communiste, il y a eu plus grand chose de possible, encore qu'il y a eu, là aussi, le feu resté à continuer à couver sous la cendre, il y a eu sous le régime communiste des pères spirituels et des hommes qui vivaient de l'esprit des pères qui ont continué. Bon, aujourd'hui, tout cela peut de nouveau revivre. Il y a sans aucun doute un renouveau spirituel remarquable et théologique remarquable en Russie. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de jeunes Russes, soit de jeunes prêtres russes, soit simplement de jeunes laïcs russes qui sont venus dans notre monastère depuis quelques années. C'est merveilleux de voir cette profondeur, cette vitalité de la foi. Mais il faudra du temps pour que 70 ans de communisme soient surmontés. Là, il faut être patient, n'est-ce pas ? Mais je crois que l'on peut dire, quand on voit, je connais bien, je suis en Grèce parce que j'appartiens à un monastère grec et j'y suis allé très très souvent depuis 30 ans, n'est-ce pas ? Mais je crois que ça se dessine aussi en Russie, je pense pour la Roumanie aussi. En Roumanie, les grands pères spirituels, il y a eu aussi une pléiade de grands pères spirituels avec le peuple communiste qui ont maintenu la foi vivante dans ce peuple. Bon, aujourd'hui, ils sont presque tous meurs, mais je pense que quelque chose va pouvoir continuer à partir de là. Mais on peut dire, je crois qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe est en plein renouveau. Il ne faut pas nous laisser omnubiler par les difficultés inévitables qui apparaissent. Bon, vous êtes tous au courant des problèmes entre le patriarche de Constantinople et le patriarche de Moscou, n'est-ce pas ? En France, il y a des difficultés à cet égard. Mais ce sont des choses, je dirais, épidermiques. Voyez-vous, ça n'atteint pas la vie profonde de l'Église. Et il faut bien se dire qu'à l'âge d'or des pères de l'Église, au IVe siècle, la situation de ce point de vue-là n'était pas meilleure. Songez que quand saint Jean Chrysostome était prêtre d'Antioche, il y avait à Antioche, d'abord, deux évêques orthodoxes. Ils n'étaient pas en communion l'un avec l'autre. L'un était soutenu par Rome et l'autre était reconnu par le Saint-Basile, les grands Cappadociens, et saint Jean Chrysostome appartenait à ce courant-là. Il y avait donc deux évêques orthodoxes mais qui n'étaient pas en communion tous les deux l'un avec l'autre. Il y avait un évêque arien, il y avait un évêque apollinariste, et il y avait encore des sectes gnostiques ou chrétiennes, n'est-ce pas ? Et le courant strictement orthodoxe auquel appartenait saint Jean Chrysostome n'était pas majoritaire. Si vous voyez ce que, par exemple, l'histoire du deuxième concile œcuménique là, en 381, qui a amené la démission d'ailleurs de saint Grégoire le théologien de son poste d'évêque de Constantinople, d'archevêque de Constantinople, ça n'est pas très brillant non plus. Il y a eu un tas d'influences politiques. Là, la rivalité entre Moscou et Constantinople, elle était entre Alexandrie et Constantinople, mais ça a produit des choses tragiques. L'exil de la mort de Saint-Jean Chrysostome était le fruit de ces rivalités entre Alexandrie et Constantinople. Ça. Donc, ça, c'est de toutes les époques dans l'Église, parce que l'Église est composée d'hommes. Ça. L'Église est divine, mais en même temps, elle est composée d'hommes, et qui ne sont pas encore tous parvenus à être complètement évangélisés, parfois même fût-il patriarche ou archevêque. Oui, c'est évident. Donc c'est inévitable qu'il y ait ces problèmes humains, n'est-ce pas ? Il faut tâcher de les résoudre au mieux, bien sûr, mais il ne faut pas se laisser obnubiler par ça. Parce qu'à toutes les époques, on le retrouve, et on le retrouvera tant que l'Église sera composée d'hommes, n'est-ce pas ? Jusqu'à la parousie, ce sera notre lot. Mais ce qui est important, c'est d'abord que ce courant animé par les pères de l'Église, ce courant d'une si grande richesse, reste toujours présent, reste toujours sous-jacent à la vie de l'Église. Et que nous-mêmes, nous aimions lire ces textes anciens, les textes des pères de cette période fondatrice dont je vous parlais, un saint Basile, un saint Jean Chrysostome, un saint Chrysostome qui est tellement accessible et qui en même temps est très profond. J'ai entendu dire parfois, c'est un Chrysostome, c'est un moraliste, il n'y a pas grand-chose à en tirer du point de vue doctrinal. Si, saint Jean Chrysostome a des écrits d'une très grande richesse théologique, doctrinale, mais c'était un pasteur, donc il s'exprime simplement. Il n'a pas la profondeur d'un saint Grégoire de Nice, n'est-ce pas, qui lui était en même temps très, très formé à la philosophie grecque. On sent que saint Jean Chrysostome a voulu rester sur un plan pastoral, mais il a su monnayer de grandes vérités doctrinales, justement. Il l'a fait admirablement. Et, j'en aurai pour 2 heures à vous reparler de tout cela, n'est-ce pas? Mais je voudrais simplement vous citer quelques textes, n'est-ce pas, quelques courtes citations d'auteurs qui ont eu des vues extrêmement justes sur les pères. Là, je vous signe 5 lignes d'un théologien catholique allemand du 19e siècle, Johann Adam Müller. Ce Müller était un penseur remarquable qui connaissait très très bien les pères de l'Église. Et il écrit ceci. Ce n'est pas leur position chronologique dans l'histoire de l'Église qui donne aux pères ce caractère de paternité qui sert à les désigner. C'est beaucoup plus leur position spirituelle et le parfait accord de leur esprit avec celui du christianisme en ce qu'il a d'essentiel, avec ses valeurs primordiales et, pour ainsi dire, germinatives. Et ces lignes pourraient être écrites par un orthodoxe. Justement, il dit que ce n'est pas... des limites chronologiques qui définissent l'époque des pères, mais c'est un esprit. Et cet esprit, justement, dans l'Église orthodoxe, est toujours resté présent et vivant. Encore une fois, parce qu'on n'a pas eu cette évolution vers la scolastique qui a marqué si profondément l'Occident. Müller disait aussi que ce qui caractérise la pensée des pères, justement, c'est qu'il n'envisage jamais isolément un aspect de la doctrine chrétienne. Mais toujours, il réfère tout point de doctrine à l'ensemble, n'est-ce pas ? Et ils ont toujours comme vue dominante ce qui est le cœur du ministère chrétien, cette formule que les pères ont répétée tellement souvent, n'est-ce pas ? Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Le Verbe de Dieu s'est incarné pour que l'homme participe à la vie divine, pour communiquer la vie divine, participer à la vie divine à l'homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Ce sont des formules qu'on retrouve perpétuellement chez les pères. Et chez justement ces pères anciens de l'Église, toujours la pensée référée à cela. Vous n'aurez pas, chez les pères, des traités sur tel ou tel point de doctrine, comme dans la théologie scolastique. Il y a beaucoup de choses qu'ils acceptent tout à fait d'ignorer, parce que Dieu n'a pas jugé utile de nous les révéler. Donc, les pères de l'Église et les théologiens orthodoxes, encore aujourd'hui, qui les suivent, savent beaucoup moins de choses que les théologiens scolastiques. Mais ce que les théologiens scolastiques ont cru pouvoir déduire parfois du dogme à fort de raisonnement philosophique, ou bien n'a pas un très grand intérêt, ou bien est erroné. Donc ce n'est pas toujours une perte, simplement les pères restent dans la ligne de ce que le Saint-Esprit a jugé bon de nous révéler. Mais aussi, les pères ont tous été, et ça vaut aussi bien pour les pères donc fondateurs de l'Église, les pères des premiers siècles, que pour les pères d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont été de grands spirituels. Ce sont des hommes qui n'ont pas été des intellectuels au sens actuel du mot, n'est-ce pas. Ils ont été des spirituels où tout était lié à la fois la vie intellectuelle et la vie spirituelle. Il n'y avait pas ce hiatus entre les deux que l'on constate maintenant si facilement. Il y a justement un texte de Fomiakov aussi, bon, peu importe, je n'ai pas à la lettre, mais où il dit que ce qui caractérise les pères, c'est ce souci de tout ramener à l'essentiel et de tout ramener à ce point fondamental qui est cette incarnation du Christ pour que l'homme soit déifié. Et lorsqu'on étudie chacun des pères de l'Église, anciens ou modernes, je dirais, ben c'est toujours ce qu'on retrouve au cœur de leur enseignement. Prenez saint Silouane, par exemple, qui était vraiment un père de l'Église de notre temps, eh bien, tout est polarisé autour de cette idée de notre participation à la vie divine, de notre déification. Tout s'articule autour de cela. Saint-Silouane ne va pas faire tout un traité, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, sur un point de détail, n'est-ce pas, du dogme chrétien, mais il vous donne une vue d'ensemble. Saint-Silouane pourrait presque suffire pour mener sa vie spirituelle, mais justement, tout est structuré, non pas d'une façon cérébrale, intellectuelle, mais vitale, autour de cette communion avec Dieu, n'est-ce pas, dans le Christ, par l'incarnation du Christ. Et une dernière citation, là, mais alors, elle n'est pas d'un auteur orthodoxe, ni d'un théologien, mais un membre de l'Église réformée de France avait fait un jour cette réflexion, après avoir assisté, je crois, je ne peux pas vous l'affirmer absolument, mais je crois que c'était après, il avait dû assister à un congrès de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Et après ça, il fait cette réflexion, vous êtes surprenants, vous les orthodoxes, quel que soit le problème qu'on évoque, les plus actuels et les plus concrets, comme l'avortement, la contraception, l'euthanasie, les problèmes sociaux, etc., vous cherchez aussitôt la solution en évoquant le mystère de la Sainte Trinité et celui de l'incarnation. Oui, c'était beau témoignage, me semble-t-il, de la fidélité de notre Église à cet aspect synthétique de la pensée des saints-pères. Bien, je resterai là pour ce soir, parce que je vais vous développer cela.